Radio Prague, les informations. Bonjour, l'économie tchèque a subi un ralentissement au cours du premier trimestre de cette année. Le nombre de séropositifs en République tchèque a battu un nouveau record et enfin en football, la liste des 23 joueurs tchèques pour l'Euro a été communiquée. Selon une estimation provisoire réalisée par l'Office tchèque des statistiques, le taux de croissance de l'économie tchèque s'est élevé à 5,4% au cours du premier trimestre de cette année, soit le taux le plus faible depuis la fin de l'année 2004. Il s'agit d'un net ralentissement puisque le taux de croissance du PIB s'élevait à 6,6% lors du dernier trimestre 2007. Selon la majorité des économistes interrogés, les principales raisons de ce ralentissement sont la consommation en baisse des ménages suite aux réformes menées par le gouvernement et à la hausse des prix des produits alimentaires. L'Allemagne, pays voisin de la République tchèque, est favorable à l'éventuelle implantation d'un radar américain sur le sol tchèque. Lors d'une rencontre à Prague, jeudi, avec son homologue tchèque, Vlasta Parkanova, le ministre allemand de la Défense a également déclaré que Berlin considérait comme important que le système de défense antimissile en Europe centrale, qui prévoit l'installation de 10 intercepteurs de missiles en Pologne, soit intégré à l'OTAN. Toujours selon le ministre allemand de la Défense, qui a précisé qu'un accord avec la Russie devait être trouvé, la République tchèque et l'Allemagne possèdent la même opinion sur la question de la défense antimissile, à savoir, a-t-il précisé, permettre la protection de la population. Le nombre de personnes contaminées par le VIH-SIDA en République tchèque a de nouveau battu un record. 59 nouveaux séropositifs ont en effet été recensés au cours des 4 premiers mois de l'année, soit 11 de plus qu'au cours de la même période l'année dernière. Au total, 122 séropositifs avaient été recensés en 2007, soit le nombre le plus élevé depuis 1986 et la mise en place du dépistage du virus dans le pays. Jusqu'à présent, 137 personnes sont mortes des suites de la maladie. Ces chiffres prennent en compte les citoyens tchèques comme les étrangers bénéficiant d'un permis de séjour longue durée sur le territoire tchèque. Afin de marquer sa présidence du Conseil de l'Union européenne lors du second semestre de cette année, la France va organiser plus d'une cinquantaine de manifestations culturelles en République tchèque. Cette vaste campagne présentée aux médias jeudi à Prague a été baptisée la saison culturelle française. Celle-ci sera inaugurée les 26 et 27 mai prochains à l'Université Charles avec la tenue d'un colloque consacré à l'avenir de l'Union européenne. Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur de France, Charles Frise, a précisé que quelques-uns des plus grands artistes de la scène contemporaine française présenteront leurs œuvres en République tchèque. En football, le sélectionneur de l'équipe de République tchèque, Karel Brückner, a rendu public mercredi la liste des 23 joueurs qui disputeront la phase finale du championnat d'Europe en Autriche et en Suisse en juin prochain. Comme prévu, Tomáš Rosický, qui vient d'être opéré du genou, est le grand absent de cette liste sans surprise. Par ailleurs, Pavel Nedvěd ne fera pas son retour en sélection comme cela était espéré. Météo, après plusieurs journées largement ensoleillées, les nuages sont de retour vendredi, jour de la fête des Przemysl. Ce temps couvert entraîne des averses un peu partout sur le territoire. Les températures sont légèrement en baisse et se situent entre 19 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Eh bien, merci à Guillaume pour les dernières informations et voyons maintenant les sujets que nous allons développer dans notre habituel magazine d'actualité tchèque. Ce sera tout d'abord avec Jarka Gisubelova qui nous parlera des raisons qui ont conduit à la remise du prix de l'Union Européenne, Europa Nostra 2008, pour la protection du patrimoine culturel au château de Český Krumlov. Ensuite, notre collaborateur Philippe Boudou évoquera la participation de la cinématographie tchèque au Festival de Cannes. Jazz Manouche à Prague, ce sera avec Anne-Claire Veluire et nous terminerons avec du sport et l'élimination de la sélection tchèque dans les quarts de finale du championnat du monde de hockey sur glace au Canada. Nous espérons que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. Le château de Český Krumlov, dominant de la ville du même nom au sud de la Bohême, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a obtenu cette semaine le prix de l'Union européenne Europa Nostra 2008 pour la protection du patrimoine culturel. Jarka Gisubelova pour plus de détails.
Le magnifique château d'origine gothique de Český Krumlov est un vaste ensemble de bâtiments, parmi lesquels le château d'Iot, de style Renaissance, avec sa tour ovale aux arcades, vient d'être récompensé. Le châtelain Pavel Slavko nous dit pourquoi le jury a attribué le prix justement à Český Krumlov.
Sans doute grâce à la façon dont nous avons mené les travaux de restauration, c'est-à-dire avec des technologies et des matériaux de conservation sensibles qui respectent l'originalité du lieu et qui accentuent son authenticité.
Les travaux de restauration ont duré 2 ans, de 2004 à 2005, et ont coûté près de 30 millions de couronnes. Et Pavel Slavko d'ajouter que les travaux ont réservé des surprises aux restaurateurs.
En effet, il s'est avéré que ce que l'on considérait comme des constructions plus récentes sont en réalité des parties gothiques d'origine. Très surprenante a été la trouvaille d'une série de fragments qui confirment que la façade sud, tout entière, et pas seulement la tour ovale, était en couleur au XVIe siècle.
Le prix, en plus d'un certificat et d'une médaille, comprend aussi une récompense financière de 10 000 euros que Pavel Slavko propose d'utiliser pour la publication d'un livre documentant le déroulement et le résultat des travaux. Le jury de la Fondation Europa Nostra a également apprécié la conception des travaux de restauration du château de Český Krumlov. C'est Pavel Jerije, directeur de l'Institut National du Patrimoine, qui en est le garant. Nous lui avons demandé s'il s'agissait du premier monument tchèque récompensé et si d'autres encore mériteraient ce prix.
Je n'en doute pas, dans le passé, le prix Europa Nostra a été attribué à la République tchèque pour la rénovation du Théâtre national de Prague, pour la réinstallation des collections Saint-Georges au château de Konopiště ou encore pour la restauration de la chapelle de la Sainte-Croix au château de Karlstein.
Rappelons que la République tchèque possède 41 000 châteaux, châteaux forts, couvents et autres monuments culturels, dont 230 ont été classés dans la catégorie des sites nationaux protégés.
Le 61e Festival de Cannes s'est ouvert le 14 mai. Au-delà des images très glamour qu'il véhicule, il s'agit aussi du plus grand rendez-vous annuel mondial pour les professionnels du cinéma. Une centaine de Tchèques ont d'ailleurs fait le déplacement. Producteurs, acteurs, distributeurs, responsables de festivals ou encore journalistes, ils passeront tous par le pavillon tchèque qui se transformera en véritable ambassade du cinéma national pendant les 12 jours du Festival de Cannes. Visite guidée de ce pavillon en compagnie de Jana Černík, directrice du Centre du film tchèque et responsable des lieux. Elle répond à Philippe Boudou.
Le pavillon à Cannes existe déjà depuis 5 ans. Pour nous, c'est un endroit en fait de base pour tous les professionnels qui viennent à Cannes pour présenter ses films, pour écrire sur les films, pour trouver des nouveaux partenaires. Ça marche, je crois.
Alors parmi la centaine de professionnels du cinéma tchèque qui vont faire encore une fois cette année le déplacement à Cannes, on retrouve au premier rang d'entre eux les studios de tournage. Quel est leur objectif précisément à Cannes?
En fait, leur objectif est d'attirer les tournages d'étrangers. Ce sont des studios par exemple comme Barrandov ou Gateo. Ils prennent l'occasion de se présenter dans le pavillon au public professionnel à Cannes.
On retrouve également des producteurs de films tchèques. Alors souvent ce sont des projets de films qui n'ont pas encore été tournés. Quel est pour eux l'enjeu de ce séjour cannois?
Parce que Cannes est un des plus grands festivals en Europe, il prend aussi l'occasion d'y aller et de rencontrer ses collègues. Il y a plusieurs possibilités au marché, concrètement, où le marché organise des rencontres pour les coproductions, par exemple.
Il y a aussi des producteurs qui viennent avec des films terminés, et là, leur objectif est encore différent.
Ben, s'ils ont un film terminé et s'ils ont une projection au marché, ils, en fait, essayer de vendre ce film-là. Et c'est très clair, c'est assez cher à Cannes, alors il faut profiter le maximum de cette projection, en fait. Pour eux, c'est le but, oui.
On retrouve également certains festivals tchèques, notamment Karlovy Vary. Il y a beaucoup de gens du festival de Karlovy Vary qui se déplacent chaque année à Cannes. Alors avec là, beaucoup d'objectifs assez différents.
Pour Karlovy Vary, ce qui est le festival le plus important en République tchèque, Cannes signifie en fait la dernière possibilité de trouver encore des films de qualité. Et aussi, Cannes représente pour eux une bonne possibilité de trouver des invités pour le festival, ce qui fait aussi une grande part du festival.
Enfin, dernière catégorie de professionnels du cinéma tchèque présents à Cannes, mais ils sont aussi des professionnels du cinéma, ce sont les journalistes. Le pavillon tchèque est pour eux un endroit où ils aiment à se retrouver.
Aussi pour eux, le pavillon représente une sorte de base où ils peuvent avoir des rendez-vous avec des gens qui veulent faire des interviews. Et ça fait déjà longtemps que la presse tchèque écrit sur le festival de Cannes, alors on essaie aussi au maximum de leur aider.
C'est le début du mois de mai qu'a choisi le groupe parisien Palinka pour se rendre à Prague et faire découvrir au public pragois le genre jazz swing manouche. Rencontre avec Daniel, le guitariste du groupe, Anne-Claire Veluire.
Palinka, c'est un alcool, c'est de l'agnole qui vient de Hongrie ou de Roumanie, nous on l'a découvert en Roumanie. Les paysans en fait vous en offrent quand vous vous baladez par là-bas pour vous souhaiter la bienvenue. Avec Johan, on s'est baladé pendant un moment par là-bas, à chaque fois, mais à toute heure de la journée, le matin, le soir, on nous offrait de la palinka, tout le temps, et on ne pouvait pas refuser parce que sinon les gens se fâchent. Donc le principe nous a plutôt bien plu et le nom vient de là. Ensuite la musique, on a commencé par faire du jazz manouche. Vraiment dans la pure tradition de Django, Stéphane Grappelli et compagnie, donc que des cordes. Et puis le groupe a évolué avec les années, on a commencé fin 2003, on a intégré des compositions, des chansons, je fais des chansons aussi. Et au fur et à mesure, tout ça s'est ouvert vers la musique de l'Est, la musique un peu plus orientale, pour arriver maintenant en 2008 au palinka que tu as vu là à l'instant, c'est-à-dire guitare, contrebasse, violon, saxophone soprano et batterie. Et donc tout ça pour une musique mélangée entre jazz manouche, musique tzigane, jazz plus moderne et puis quelques chansons à consonance tzigane aussi, mais en français.
J'ai cru comprendre que vous avez pas mal voyagé en Europe centrale et en Europe de l'Est. Est-ce que c'est ces voyages qui vous ont poussé à faire cette musique ?
L'un et l'autre, c'est-à-dire que cette musique-là nous a donné envie de voyager dans ces pays-là. Et puis, plus on voyage dans ces pays-là, plus on a envie de faire cette musique-là. Donc, tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. Et puis, on n'a pas fini de voyager, on n'a pas encore assez voyagé, faut continuer quoi. Là, on est reparti pour 10 jours. On joue demain encore en République tchèque, ensuite à Budapest, ensuite à Vienne, ensuite on revient vers la République tchèque. On va à Pilsen. Enfin voilà, on essaye de bouger un maximum parce que c'est comme ça que moi je vois la musique en partageant ça, en rencontrant des musiciens un peu partout. Ça marche beaucoup comme ça.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est une musique qui est connue au populaire, le jazz manouche en République tchèque ?
Depuis l'anniversaire de la mort de Django en 2003, il y a eu une mode beaucoup en France, puis dans beaucoup de festivals de jazz manouche. Maintenant, moi je ne sais pas trop où ça en est en République tchèque. Ce qu'il en est, s'il y a des hot clubs de Prague. Parce que voilà, tous les groupes de jazz manouche s'appellent le Hot Club de Paris, de tout ça. En tout cas, c'est une musique qui plaît partout. Ça parle à tout le monde, aux petits, aux grands, c'est énergique. Disons, maintenant, la musique qu'on fait, on s'en est un petit peu éloigné, mais il y a toujours cette énergie-là qui est présente.
Thank you.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Prague. Il semble que les quarts de finale du championnat du monde de hockey sur glace soient la hantise de la sélection tchèque ces deux dernières années. En effet, après une élimination au dernier championnat du monde à Moscou, l'équipe conduite par l'entraîneur Alois Adamczyk n'a pas réussi à vaincre une très bonne équipe suédoise en quart de finale du championnat du monde qui se joue au Canada. À Québec, elle s'est inclinée 2-3 dans les prolongations. Il faut reconnaître que la chance a tourné le dos aux joueurs tchèques. À la 52e minute de jeu, le score était encore à égalité 1-1. Quelques minutes plus tard, la Tchéquie menait 2-1 grâce à un but de Radim Vrbata. 3 minutes et demie avant la fin de la troisième période, le gardien de but tchèque, Milan Hnilička, était renversé par un attaquant suédois et son coéquipier Nilsson marquait sans aucun mal. La Tchéquie protesta vainement, invoquant une faute contre son gardien de but. Égalité donc à la fin de la troisième période et la prolongation commença. À sa 4e minute déjà, tout était décidé. Le Suédois Weinhandel marquait le 3e but qui envoyait les 3 couronnes en demi-finale. Grosse déception de la sélection tchèque qui comptait bien aller jusqu'à la finale. On écoute le capitaine de l'équipe, Tomáš Kaberle.
C'est une déception car je pense que nous avons bien mieux joué que dans les matchs d'ouverture. Les deux équipes ont très bien joué en défense, les gardiens de but ont été très bons. En fin de compte, c'est un but malchanceux qui a fait la différence. Les Suédois ont marqué leur second but après une faute sur notre gardien, mais personne ne l'a vu, tout comme quand ils ont joué avec un joueur de trop sur la glace pendant un moment. Nous avons été battus, ce que nous ne pensions pas, car notre objectif était de jouer la finale du 18 mai. C'est vraiment une déception.
Alois Adamczyk n'était pas très loquace après le match. Il s'est borné à déclarer qu'il abandonnait son poste de sélectionneur national. C'est le premier entraîneur de l'équipe tchèque qui affiche un bilan passif. Sur 88 rencontres internationales, sa sélection compte 38 victoires seulement contre 47 défaites. 3 rencontres se sont terminées par un match nul. En 3 ans, Adamczyk a conduit sa sélection à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Turin et à l'argent du championnat du monde de Riga en 2006. Les années 2007 et 2008 resteront des années noires, aussi bien pour lui-même que pour le hockey tchèque. Qui pourrait le remplacer? On parle beaucoup de l'entraîneur du Slavia et ancien international, Vladimir Ružička. Il a laissé entendre qu'il ne serait pas contre, mais tout dépend de la décision de l'Union tchèque de hockey sur glace. La radio tchèque 7, Radio Prague, lance un concours pour ses auditeurs. Pour y participer, il vous suffit de nous écrire quels sont les sportifs et les équipes de sportifs tchèques que vous connaissez. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour d'une semaine à Prague pour 2 personnes. Des prix de valeur et des cadeaux souvenirs sont réservés aux autres participants. Les meilleures réponses seront publiées dans nos émissions du week-end du 28-29 juin 2008 et sur notre site web www.radio.cz. Vous pouvez envoyer vos réponses d'ici au 13 juin 2008 à l'adresse postale Radio Praha, Vinohradská 12, 120-99 Prague 2, République tchèque. Notre adresse courriel est la suivante. cr@radio.cz. Le prix pour le lauréat du concours est gracieusement offert par le sponsor Orea Hotels, l'une des plus importantes chaînes hôtelières en République tchèque. Radio Prague vous offre une carte QSL spéciale à l'occasion du 85e anniversaire de la radio tchèque. Pour la recevoir, il vous suffit de nous envoyer un rapport d'écoute des émissions de Radio Prague du 18 mai 2008. C'est en effet le 18 mai que les émissions de la radio ont commencé, il y a 85 ans. Faits événements, c'est terminé. Place maintenant à la rubrique consacrée à une personnalité tchèque, toujours sur Radio Prague.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Né en février 1902 près de Zdjarnatsazavo en Bohême du Sud-Est, Ladislav Heger est un philologue germaniste et spécialiste de la Scandinavie. C'était également un excellent traducteur du danois, du vieil islandais, de l'allemand et du néerlandais. Parmi ses traductions des poèmes mythologiques et héroïques du vieil islandais, citons Edda, la saga sur Grettir, la saga sur Saint Olaf de Snorri Sturluson, publiée dans les années 60 par des maisons d'édition tchèques. Ladislav Heger a traduit des dizaines de ballades danoises, suédoises, norvégiennes et islandaises qui n'ont été publiées qu'en 2000, 25 ans après le décès du traducteur, par la maison d'édition Aurora sous le titre de « Ballades nordiques ». Le livre est un recueil de 125 ballades des pays scandinaves. Bien évidemment, la célèbre ballade Tristan et Isolde ne serait manquée, ainsi que les filles de Monsieur Thor de Wenge, ballade qui a inspiré le célèbre cinéaste et metteur en scène Ingmar Bergman à réaliser son film La source de la Vierge, bien connu par tous les amateurs de cinéma. Les ballades apparaissent pour la première fois en France et en Allemagne, puis elles se répandent en Angleterre et en Écosse. Au XIIIe et au XIVe siècle, les ballades deviennent le genre littéraire le plus apprécié dans les pays scandinaves. Par contre, chaque pays nordique a un style différent relatif à son histoire, sa situation politique et ses coutumes. Ainsi, par exemple, les ballades danoises sont plutôt chevaleresques, les Suédois donnent la préférence aux histoires de fiancés kidnappés et aux vierges au destin tragique, les Islandais sont principalement axés sur la tradition orale et les ballades de la Norvège se base sur la légende et les contes de fées. Il est évident que Ladislav Heger avait une excellente maîtrise des langues nordiques, tout en connaissant bien le milieu, les coutumes, la culture. Sinon, il n'aurait jamais traduit les ballades et poèmes avec une telle aisance. Ladislav Heger a fait ses études d'allemand à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague, à Copenhague et à Berlin. Une fois les études terminées, il donne des cours dans le cadre des écoles secondaires de Prague. 4 ans plus tard, il devient assistant de danois et en 1945, il est nommé maître de conférences de germanistique à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague. Après le coup d'état communiste de février 1948, il travaille à la bibliothèque universitaire à Prague et dans les années 50, il est nommé maître de conférences à l'université de Palatsky à Olomouc. Il exerce ses activités en parallèle dans les 2 universités prestigieuses du pays. Ladislav Heger a publié un grand nombre d'études spécialisées sur la germanistique ainsi que sur les langues, la littérature et les nations nordiques. Ladislav Heger, décédé le 18 janvier 1975 à Prague, dirigeait également dans les années 60 la rédaction du dictionnaire des écrivains Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Pays-Bas et Belgique. Il est à noter que les traductions en tchèque ont suivi de près les versions anglaises et allemandes des œuvres les plus connues de la littérature nordique qui restent toujours peu connues en République tchèque. C'était donc un portrait de Ladislav Heger, un philologue germaniste et spécialiste de la Scandinavie. Cette émission a été préparée par Jarka Gregorova et présentée par Václav Richter.
Nous allons donc nous quitter pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous bien sûr pour une nouvelle émission de Radio Prague, que ce soit sur les ondes, le satellite ou le web.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.